Il est 7h30. Notre invité du jour, Monsieur Motizi Patrick, président de l'association à but non lucratif Helvetia Lyrica Association. Je peux vous appeler par votre prénom, c'est-à-dire Patrick?
Oui, bien sûr, Benjamin. Merci, bonjour à tous.
Bienvenue ici à Lux Radio. Votre association, quels sont les buts?
Alors, le but de l'association est de collecter et conserver les pièces les plus représentatives de l'excellence de l'art lyrique. Alors, ça veut dire quoi? Dans un premier temps.
Quel genre de pièces, par exemple?
Voilà, on y arrive. Ça peut être des vieilles photos, des manuscrits surtout, des vieilles partitions, mais anciennes ou dédicacées par les compositeurs, ou par les chanteurs d'opéra, les plus connus, donc des choses un peu rares, des correspondances, donc iconographiques. Bibliophiles, il y a des premières éditions, c'est le cas, par exemple des biographies, des choses qui reprennent vraiment l'excellence dans le parcours qu'on a oublié aujourd'hui, qui est vraiment ce qui était les meilleurs de l'opéra qu'on ne connaît plus. Maintenant, ce qui reste, pour l'un, on dit le plus commun, c'est Callas, Pavarotti, Caruso, et ça s'arrête là. En général, un peu plus.
C'est vrai que, en ce qui me concerne, c'est à peu près ça.
Voilà, c'est ça, mais c'est tout à fait normal. Et donc, le but, c'est de montrer à un maximum de personnes, à une plus large audience, qu'il y avait des noms moins connus, voire pas inconnus, mais qui ont apporté autant, voire plus, à l'opéra, qui est un art, justement, et non, peut-être comme ces dernières années, ces dernières décennies, devenu un petit peu un divertissement, comme tout le reste de la société. On va avoir un spectacle. Et on oublie aussi que c'est une transcendance du génie humain pour le compositeur et l'interprète.
Est-ce que c'est un art encore vivant, ça veut dire? Est-ce que des jeunes pratiquent encore? Est-ce qu'il y a des compositeurs qui sont encore intéressés à composer dans ce registre? Est-ce qu'il y a encore des chanteuses et des chanteurs lyriques?
Alors oui, bien sûr, des jeunes, et heureusement. Et c'est très intéressant comme question parce que c'est une question, mais je dis pas de manière péjorative, mais naïve, dans le sens de personne qui ne connaît pas, qui est un peu curieux. Ouais. Et c'est justement, alors c'est à vous que s'adresse notre association, ou un public comme vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme vous qui disent qui ne connaissent pas l'opéra, qui en ont un petit peu peur. Et justement, le but, c'est pas qu'on fasse... alors, il y a la partie muséale, entre guillemets, mais pas entre nous, mais qu'on puisse diffuser, et grâce maintenant à la technique digitale, à un plus large public, qui soit curieux, comme vous, simple curieux, un peu pumélomane, et voir les grands musicologues qui vont trouver des pièces assez rares qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est un très gros challenge.
Mais là, vous me parlez chaque fois un petit peu du passé. Non, non, c'est bien, c'est juste ce que vous dites. Ma curiosité, elle est un peu piquée, justement, par rapport aux jeunes, parce qu'effectivement, au niveau médiatique, on en parle très, très peu. Il y a peu d'éclairage sur ces parcours de jeunes artistes. Est-ce que les jeunes sont encore attirés par l'art lyrique? Par exemple, à Genève.
Oui, vous avez l'HEM. À Genève, donc la Haute École de Musique, où vous avez une classe d'artistes pour les artistes lyriques, pour devenir, des masterclass aussi qui sont organisées. Vous avez ça dans chaque canton en Suisse, on parle de Genève, mais un peu partout en Suisse. Il y a des opéras, il ne faut pas l'oublier, bien sûr, le Grand Théâtre de Genève, même l'opéra Lausanne, le Palais de Zurich, à Bâle, il y a des théâtres. Il y a une activité, mais en revanche, comme vous le dites, ils ne sont pas assez éclairés, je le trouve aussi. Donc on n'en a pas connaissance, on n'imagine pas qu'il y a une activité. Alors là, on part vocal, mais il y a aussi instrumental.
Vous-même, vous pratiquez la musique?
Alors, j'ai pratiqué dans le passé, j'étais artiste lyrique, j'ai fait des chœurs, on dit le chœur supplémentaire, j'étais dans les chœurs d'opéra, en freelance, comme on dirait maintenant, ce qui était très agréable, ça permet de naviguer un peu partout dans les théâtres. J'ai fait plusieurs productions, j'ai fait quelques petites choses solo, puis après, par rapport à des épreuves, il y a des échéances personnelles, j'ai dû prendre une autre orientation professionnelle.
Ouais. Vous avez grandi dans un environnement culturel propice à l'art lyrique. Vous avez été baigné dedans tout petit.
Alors, comme oui Obélix. Et non. Dans le sens que, comme je suis d'origine italienne, sicilienne, plus précisément.
Alors là, c'est plutôt Puccini, non?
Alors, non, pas forcément. Mascagni, c'est un opéra qui s'appelle Cavalleria Rusticana, qui se passe en Sicile, qui a un drame justement de jalousie de mari qui tue l'amant, etc. Alors, dans mon oncle, un oncle, mais en Italie à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était des longues distances qui chantaient l'opéra. Mais je n'étais pas vraiment en contact direct, c'est assez lointain. Ma mère avait une voix de mezzo, chantait un peu Carmen, des choses comme ça à la maison, et on écoutait le dimanche de l'opéra. Donc, c'est un peu mélomane, mais pas de formation musicale à proprement parler.
Donc, vous avez grandi à Paris, c'est ça?
Oui, tout à fait. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Je suis venu à Genève il y a 20 ans. Voilà.
Est-ce que, vu que vous étiez déjà baigné dans cet univers lyrique, est-ce que vous avez pu bien vous intégrer dans une classe? Parce que je peux imaginer le décalage. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais disons, dans cette époque-là, plutôt rock.
Quel âge?
je vous donne pas d'âge.
Ah. Vous voulez pas vous mouiller.
Exactement.
Je veux pas vous mouiller. La réserve helvétique.
Non, mais par exemple, j'imagine un élève qui arrive dans une classe, dans une époque où, sais pas, on est à fond dans le rock, etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu décalé?
Non, parce que... Enfin, non.
Est-ce que vous appréciez le rock, déjà?
Alors, lequel? Parce que je ne suis pas un grand amateur. Mais comme tout le monde, j'aime des tubes. Ouais. Alors moi, je suis un peut-être vieux parce que je suis une ancienne génération. J'ai 55 ans, pour tout vous dire. Donc, s'il y a des Rolling Stones, des choses comme ça, oui. Ouais. Les Beatles, c'est plus du rock. Maintenant, c'est un peu vieux. Mais des choses classiques, oui, des tubes. Des tubes, oui.
Ce matin, en compagnie de Patrick Motizi, de Helvetia Lyrica Association... Donc, le but, c'est de préserver le patrimoine des arts lyriques. On a fait un petit tour sur votre parcours de votre enfance à Paris et des radios locales aussi, puisque vous les avez vécues, Radio Transitalia.
Oui, dans les années 80, à Paris à l'époque, en France, mais j'étais à Paris, il y avait ce qu'on appelait les radios libres.
Ouais.
On avait fait les premières radios privées. Et il y avait cette radio italienne, je crois que c'était Transitalia ou Radio Italia, ou je pense pas que c'était Radio Italia, j'ai oublié un petit peu le nom.
Et vous avez pas fait une émission lyrique là-bas?
Non, parce que j'avais 12 ans, je crois.
Ah oui.
Bah oui, faut remettre dans le contexte, on est en 82, 13 ans.
Moi j'aurais trouvé ça original.
Ah ben moi aussi, mais on me l'a pas proposé, donc
c'est voilà. Dommage. Bon, ok. Et puis d'ailleurs, faire une radio...
Eric, aujourd'hui, pour moi, l'urgence, c'est le patrimoine, comme je l'ai dit, parce que là où j'ai pas le temps encore de vous expliquer pourquoi cette envie, c'est que j'ai vu le patrimoine. Je vois d'abord une désaffection, comme vous dites, personne ne connaît.
Ouais.
Et maintenant, les nouvelles générations, et là, je l'ai vu deux fois, et c'est là que ça m'a dit qu'il fallait que je sois plus spectateur, mais acteur. J'ai vu des collections passer à la poubelle. Alors là, c'est urgent.
Alors, quand vous dites des collections passent à la poubelle,
voilà.
Et au niveau matériel, c'est quoi cette collection?
C'est-à-dire alors, qu'il y avait des collectionneurs comme moi, qui avaient des photos anciennes, des manuscrits, des partitions. Les héritiers sont là dans un coin, pour des raisons X ou Y, les héritiers n'avaient pas vu leurs grands-parents depuis longtemps. Ils voient ça, au mieux, ça a terminé dans un brancanteur.
Ouais.
Donc c'est dispersé, c'est le moins pire.
Oui, au moins c'est pas détruit. Ouais.
A priori, mais on sait pas, in fine, comment ça se termine.
Ouais.
Et au pire, comme je l'ai vu, c'est passé la poubelle, on savait pas ce que c'est.
Ça a de la valeur?
Alors, justement, c'est le problème. Quand on parle à des collectionneurs, comme partout, comme vous, c'est le collectionneur, c'est une valeur sentimentale. Vous lui attribuez une valeur. Mmh. Mais moi, dans mon métier, qui est la finance, je vais vous dire, c'est pas liquide, ça n'a pas de valeur. C'est la valeur que l'on vient lui donner. Mmh. Alors, comme tout bien, même en finance.
Ouais.
Un immeuble, un appartement, vous lui donnez tel prix, ça vaudra le prix que vous le vendez.
Bien sûr.
Vous trouvez un acheteur. C'est pareil pour ça.
C'est ce que je dis aux impôts chaque fois.
Voilà. Exactement. Donc, sans rentrer trop dans le côté commercial et mercantile, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais on a tellement d'affect que ça donne une valeur. Et après, on est un petit cercle de collectionneurs, donc on connaît un peu nos cotes.
Mmh.
Et là, je me suis rendu compte justement, parce que j'ai repris ma collection il y a quelques années, qu'il y avait une désaffection, que les prix baissaient. Et donc, j'ai compris qu'il y avait des affections. Pour ça, c'est une chose. J'étais un peu étonné. J'ai acheté un peu plus. Et après, comme je dis, j'ai vu que ça disparaissait. Mmh. Et là, j'ai dit, il faut plaire spectateur, il faut agir.
Donc, vous le faites. Ce n'est pas tant pour un aspect financier comme si un marché de l'art lyrique se développait. C'est vraiment la préservation de patrimoine.
Absolument. Il n'y a aucun marché parce que je pense que les collectionneurs, justement, réduisent.
Mmh.
Qu'il y a très peu qui prennent la suite. Et c'est plutôt l'urgence d'éviter que ça disparaisse. Complètement, et donc c'est l'urgence, c'est le collecter, le restaurer, bon ça serait évidemment c'est coup de moyens, c'est une question de moyens, et après le distribuer, là c'est l'avantage de la technologie qu'on n'avait pas avant, qui est la digitale.
Ouais.
Parce que maintenant, vous avez vu notre website, on peut digitaliser, donc le but, et mon idée, et mon rêve, c'est que nous ayons des membres qui dépassent Genève bien sûr, qui dépassent la Suisse bien sûr, et que si nous avons un membre à l'autre bout du monde, même s'il envoie sa petite cotisation qui est très modeste chez nous, volontairement pour être accessible, 50 francs, 40 francs, 29 francs pour les moins 29 ans,
ouais.
Le dire, pour les jeunes justement,
ouais.
C'est voulu, on ne gagne pas d'argent dessus, c'est fait exprès. Donc, c'est un risque.
Et il aurait accès, il pourrait regarder, observer le document.
Et comme ça, même s'ils ne viennent pas à l'événement que l'on fit, qui sera à Genève prochainement ou ailleurs, ils auront des photos, des vidéos sur le website, et puis après en live stream, c'est prévu aussi sur la plateforme, grâce à notre partenaire Infomaniac, qui nous prépare, partenaire suisse, nous tenons vraiment à l'identité suisse, l'ADN suisse, de voir ce qu'on a fait, dans ce qu'on fait. Donc c'est le but, et pour nous ça me semble très important.
Vous, quand vous étiez petit, vous vous projetiez dans ce genre de métier, la finance ou... Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier, vous?
Alors, moi, je voulais être... D'abord, je n'avais pas de métier particulier quand j'étais vraiment tout jeune, on va dire plutôt petit. J'ai voulu être chanteur d'opéra à partir de 12-13 ans.
Ouais.
Et alors, à ce moment-là, il faut savoir que pour les hommes, la voix, elle mue. Oui. Donc, il faut attendre 18 ans. Donc, je ne pouvais pas chanter. Ouais. Alors, c'est là qu'on voit qu'on la voit devenir plus grave, comme ça. Ouais. Ou alors, reste aiguë pour devenir ténor, baryton,
basse.
Cela
dit, vous prenez quand même les cours de chant.
Alors, non, même... justement, on ne peut pas travailler la voix pendant toutes ces périodes de 13 à 18 ans, parce que c'est dangereux pendant que la voix mue.
Ah bon?
Ouais. Alors, c'est avant quand vous êtes très jeune, vous êtes en fond de cœur, vous êtes dans les chorales.
Voilà, vous chantez.
Mais
quand
avant
même.
13 heures. Mais j'ai pas eu, avant 13 ans, pardon.
Ouais.
Mais j'ai pas eu cette formation, comme
par
je vous
dis. Par contre, entre 13, vous dites, à partir de 13, il faut s'arrêter.
17, ouais, il faut s'arrêter totalement.
Ah bon, d'accord. Ouais.
À cause de la transformation des hormones et autres, ouais. Car ça pouvait, pouvait endommager l'appareil phonétique et donc vocal.
D'accord. Vous avez des regrets de ne pas avoir persévéré ou continué là-dedans?
Alors, oui et non. Oui, parce que c'est une passion, et non parce que le métier s'est beaucoup détérioré depuis l'époque où je l'ai connu.
Avec Patrick Motizi, avec donc président de l'association, je recherche le nom, Helvetia Lyrica Association, pourtant c'est facile à retenir. Patrick, donc, pour conclure un petit peu votre parcours de jeunesse, vous terminez l'école obligatoire, vous faites du poste obligatoire, c'est comment votre cursus?
Non, juste très très vite, j'ai dû travailler. Ouais. À 19 ans, je crois, à l'aube de mes 20 ans, ouais, 19 ans,
ouais.
J'ai eu mon premier job de pion, comme on dit, je crois que familièrement, dans une école.
Vous, en tant que pion dans le préau de l'école?
Oui, ah, pas que le préau, dans les classes,
dans les
études,
classes, ouais, etc.
Les couloirs et la cantine, lieu redoutable.
Je sais pas, j'ai l'impression que vous étiez hyper exigeant.
Bah, vous êtes très perspicace.
Sérieux?
Voilà, c'est la rigueur.
Parce que vous avez un petit côté très souriant, truc, mais en même temps... Ah oui, d'accord.
Ah oui, déterminé.
Déterminé. Et vous étiez apprécié par
les élèves?
Par les petits sauvages?
Alors, par mes hiérarchies, ça va à peu près.
Ouais.
Ils ont bien aimé, ils avaient un bon élément.
Ouais.
Pour pas cher, je précise. Et pour les élèves, évidemment, c'était...
Ah bah tiens, c'est payé combien un pion?
À l'époque, c'était en francs français, je crois que j'étais à 35 francs français. Je vous disais par 4 à l'époque, hein, pour un franc suisse.
D'accord.
C'était 4,50 le franc suisse à l'époque, par rapport à un franc français.
Net de ou il y avait encore les charges à enlever?
Ah non, brut.
Ah,
il y
brut.
A les charges à enlever. Ah. Et en France, c'est pas petit. Hein.
Ouais.
Voilà. Et bon, ça faisait un SMIC de l'époque, c'est-à-dire, on dirait à 4000 francs maintenant.
D'accord.
3008.
Et les petits padawans?
Mais à 33 heures.
Les petits padawans de l'école, ils ont entre quel âge et quel âge?
Alors, moi, je faisais 6-5e, ça veut dire, en France, ça voulait dire ici, entre 12 et 14 ans.
Ah, donc
le pire.
Il y a déjà des mini-caïdes, alors.
Ah, c'est les pires. C'est là, ils ont tous le taux d'hormones qui monte au maximum. Donc, il faut être là pour réguler les choses.
Donc, si j'ai bien compris, vous avez réussi à vous faire respecter.
Ah, plus que ça, oui.
Ah, ouais.
On m'a traité de tous les noms. Et après, j'ai appris que quand j'étais parti, que je croisais des élèves, ils couraient après, ils pleuraient. Ah, pourquoi t'es parti? Avec toi, c'était bien. Maintenant, c'est le bordel. On fait n'importe quoi.
Ouais. Enfin,
au moins, tu mettais les choses. Tu étais juste. On savait où aller, etc.
Ouais. Combien de temps, cette expérience de pion à l'école?
3 ans. Trois ans de mémoire. 3 ans et demi. Un peu moins de 4 ans, en tout cas.
Et après, vous vous orientez tout de suite vers la finance ou ça?
Alors non, pas du tout. J'ai fait encore plusieurs jobs. C'est ce que je payais. C'est à peu près où je prenais mes cours de musique et de chant, d'opéra.
Ouais.
Donc j'ai financé mes opéras. J'étais agent d'accueil dans le cinéma, dans une grande marque de cinéma français. Je ne ferai pas la publicité. Non, s'ils ne me payent pas, je ne fais pas publicité, qu'ils ne versent pas de l'argent à l'association, il n'y a pas de raison.
On voit bien le financier quand même.
Voilà, c'est fini. Et là, j'étais directeur adjoint, j'ai travaillé dans le luxe aussi, là où j'étais directeur d'une grande marque qui est présente à Genève, dans les souliers de luxe française, je pense qu'ils vont se reconnaître.
Ouais.
Et aussi, surtout, les vêtements sur mesure d'une grande marque italienne, je vais la citer parce que c'était la belle heure, Ermelgi Dozzegna. Qui était inconnu à l'époque, et n'est plus connu réellement, mais à l'époque, c'était des costumes à 10 000 francs.
Et il n'appartient pas au groupe Zara?
Non, Zegna. Non, non, c'est les indépendants, c'est Camarmani, c'est une des rares maisons qu'on croit indépendantes.
Ermelgildo Zegna.
Ah, Ermelgildo Zegna.
Mon grand-père s'appelait Ermelgildo.
Ermelgildo?
Oui.
Ah, bah, bravo.
Bon, ouais, bravo, j'y peux rien.
Non, non, mais comme quoi, c'est un nom très rare. Même en Italie.
Ah oui?
Ah oui, c'est un nom très rare.
Bah, pourtant, lui, il était espagnol.
Ouais,
vous voyez,
c'est
ça
bizarre,
existait aussi en Espagne.
Ouais, ouais.
Ouais, bon. Alors, c'est vrai que l'opéra, quand on prend un parcours comme ça, pour faire un petit peu de thune, comme certains artistes dans le métro, la guitare, chant, c'est plus compliqué quand même.
Oui, bien sûr, c'est pour ça, moi, j'ai fait ça un peu plus. Et puis après, je me suis lancé donc, quelques années.
Mm-hmm.
J'ai fait ces remplacements de chœur un peu partout, en France, un petit peu à l'étranger aussi. J'ai fait des choses, des tournées en Suisse, y a eu en Suisse voisine ici, en frontière. Je crois à Fribourg, et puis j'ai fait ça quelques temps, et puis à partir de là, il y a eu une crise dans les années 90, c'était le début de la carrière, donc je suis arrivé en fin de cycle. Donc ça a duré quelques années. Après, j'avais aussi des impératifs familiaux, donc j'ai dû reprendre certains boulots. Et je suis arrivé ici dans le luxe à Genève il y a 20 ans. Mmh. Et c'est ici, dans cette place financière, où c'est plus petit qu'une capitale comme Paris ou d'autres, ouais, qu'on fait plus vite des contacts, que j'ai pu construire mon réseau.
Est-ce qu'il y a des belles affiches ici à Genève ?
D'opéra,
d'opéra.
Oui, tout à fait.
La dernière, celle qui vous a...
Don Carlos.
Ou celle qui vous a le plus impressionné ?
La dernière, c'est Don Carlos.
Don Carlos.
De Verdi, je vous expliquerai.
On respire profondément et on sort la voix. Nous sommes avec Patrick Motizi de Helvetia Lyrica Association. Patrick, quels sont vos projets cette année pour cette association qui vient de naître en fait ? Elle est toute récente ?
Tout à fait. Nous avons fondé cette association en septembre 2023, donc il y a quelques mois. Mmh. Donc nous avons déjà trois événements. Le prochain qui va arriver vite, c'est le 2 mai, une conférence avec l'historien de la musique Patrick Barbier, qui est un très grand spécialiste des castrats et de la civilisation italienne, de l'opéra, mais aussi de l'histoire italienne.
Donnez-nous un tout petit cours, mais très succinct, de ce que c'est un castrat.
Alors, un castrat, justement, tout à l'heure, on parlait de la... Vous savez, je disais qu'on ne peut pas chanter avant entre 13 et ouais, justement. À l'époque, justement, avant Kimur, les enfants avaient des voix dits soprano. Mm-hmm. Ils chantaient comme des sopranos, on va dire, schématiquement.
Hein, voix haute.
Ouais. Voix très haute. Et aussi des voix un peu moins hautes, mais toujours plus hautes que les hommes qu'on connaît maintenant. Parce que l'hormone n'a pas agi sur la voix. Mmh. Donc on les castrait, et forcément, il n'y avait pas de montée d'hormones, la voix ne pouvait pas muer, justement.
Castrer, ça veut dire enlever les
cocognettes. Oui, les testicules.
C'est ça.
Les testicules, oui. Ouais. Ablation des testicules. Parce que c'est là que pareil. Donc à partir de là, il n'y a pas. Il faut imaginer alors, c'est là qu'on pense que les gens efféminés, etc. Pas du tout. Enfin, pas du tout. La voix était une voix de garçon, pas de femme.
Ouais.
C'est la nuance.
Ouais.
Mais le corps était un corps d'homme. Mmh. Donc Farinelli, qui fera l'objet de notre deuxième conférence avec le professeur Patrick Barbier le 21 novembre, qui est le plus connu des castrats, connu dans l'histoire, c'est des gens d'un mètre 80.
Lui, il n'est pas castrat. Hein.
Farinelli
si. Ah, Farinelli, oui, si. Pardon.
C'est Farinelli.
Ça, je pensais votre...
Le conférencier,
excusez-moi. Non, voilà, j'ai cru deux secondes que vous parliez de conférencier.
Le conférencier, non.
Non, pardon.
Pas encore, pas ma connaissance.
Pardon, monsieur le conférencier.
Mais de ce que j'ai entendu, non. J'ai parlé localement, non.
D'accord, ok, pardon. Je vous laisse
reprendre. Je vais lui faire, ça lui fera plaisir. Et donc, ils ont gardé une voix de garçon, mais avec des résonateurs d'hommes, donc une voix puissante, et pas des voix de sopranistes, comme on dit maintenant, des voix de tête. C'est des hommes d'1m80 qui, pour l'époque, étaient très grands, ou 1m75, la moyenne était 1m55-60, une cage thoracique extrêmement développée, parce qu'ils avaient une discipline de fer.
Genre nageur.
Voilà, c'est ça, avec la respiration, il était une très longue phrase, avec beaucoup de coloratura, ça veut dire des vocalises, comme les femmes, et c'était des dieux sur scène devant les femmes, qu'on avait. Il n'y avait pas de femmes à l'époque, pour ça qu'on sortait les castrats, enfin, très peu. Et donc, et la particularité, c'est qu'ils étaient imberbes. Donc, si vous voyez la photo de Farinelli, c'est un très beau jeune homme, comme ça, magnifique, mais très grand, mais sans barbe, sans rien, pas de pilosité, forcément, puisque pas de testostérone, et avec un corps d'homme, et avec cette voix, c'était troublant. Donc, pour l'époque, c'était très troublant.
Et donc, celui qui va mener cette conférence s'appelle ?
Patrick Barbier, c'est un grand professeur spécialiste des castrats et de l'époque baroque, notamment à Naples. Mmh. Et nous avons deux événements avec lui. Le 2 mai, c'est l'histoire des castrats en général, justement pour répondre à vos attentes.
Ouais.
Et alors, on va vous lancer une invitation, comme ça vous allez venir.
Avec plaisir.
Pour expliquer comment sur les castrats, où étaient les lieux, qui était leur mode de vie, etc. Qu'ils avaient une vie très disciplinée à part.
Ça se passera où ?
Alors, le 2 mai...
Vous n'avez pas encore la date.
C'est le 2 mai, c'est la date, c'est juste j'attends la confirmation de la salle.
À suivre.
Donc, dès que je sais, la semaine prochaine, je ferai un event sur notre website.
Ouais.
Et il y aura une billetterie en ligne. C'est là où on va être un peu technologique, avec un code QR pour pouvoir s'inscrire
super,
en ligne.
Super.
Et le deuxième, ça sera sur Farinelli, le plus connu des castrats, le 21 novembre, toujours avec le même conférencier, Patrick Barbier.
Quels sont les principaux défis auxquels votre association doit faire face ?
Alors, pour l'instant, évidemment, comme toute association, c'est le financement, bien sûr. Donc on a choisi de pas solliciter le contribuable, parce que je crois qu'il est assez sollicité, encore plus maintenant.
Ouais.
On ne demande pas trop de subventions publiques. Si on peut déjà avoir les installations, les salles et autres, on est déjà très content de la mairie de Genève ou du canton, tout ce qui dépend. Et puis après, c'est surtout les donations privées, se faire connaître, pour que ce soit les particuliers ou les institutionnels, rejoignent notre projet quand même à un aspect philanthropique. Ceux qui ont une surface financière plus large permettent à ceux qui en ont moins d'accéder à la culture.
On va en reparler dans la prochaine intervention, mais ici, on va faire la question D. C'est la question du destin.
Qu'est-ce que c'est ?
D comme destin et comme l'objet à six faces. Ouais, vous jouez le D.
3.
Ouais. Si les chaussettes avaient des personnalités, comment décririez-vous celles que vous portez en ce moment ?
De personnalité ou de chaussettes, pardon ?
En personnalité. Alors d'abord, on va commencer par le début. De quelle couleur sont vos chaussettes, là ?
Alors, grise avec une fine rayure, gris clair.
Comment vous définissez... Oh là là, c'est trop dur le
définissez
matin. Définissez sa personnalité.
On va dire élégante, parce que j'ai un pantalon gris, donc élégant, c'est sobre, mais beau et chic.
Je suis en compagnie de Patrick Motizi, président d'Helvetia Lyrica Association. Donc le 2 mai, une conférence hyper intéressante sur les castrats. Les castrats, donc, qui étaient vénérés, on va dire. Carrément vénéré.
Oui, tout à fait, c'était les dieux.
Ouais, donc Beyoncé, elle est mignonne encore à côté.
Les petites joueuses, faut dire la vérité, même Madonna.
Donc ils avaient des gros caprices.
Oui, bah, comme tous les divas, hein, comme tous les dieux. C'est-à-dire que, évidemment, on parle des castrats, mais c'était comme une minorité qui arrivait au rang des superstars. Hein, c'était une dizaine, comme ça.
Mais c'est vrai que les gars, ils mangeaient leur plat sur scène.
Oui, tout à fait, comme je vous l'ai dit.
Sans gêne, comme ça.
Oui, tout à fait, ça pouvait arriver, c'était pas tous. Hein, ouais. Mais certains avaient des égos, bien sûr, comme tous les divas, on a tous des égos. Vous le voyez avec Beyoncé, etc. Tout le monde a son égo. Ici, maintenant, c'est les caprices avec des majordomes, je sais pas quoi. Enfin, chacun ses caprices, avec des contrats. À l'époque, c'était pareil. Il y avait un castrat, le nom m'échappe actuellement, qui arrivait, qui avait l'habitude d'arriver avec son costume de guerrier, à l'époque c'était mythologique, son bouclier, sa lance, il mangeait sur scène, et quand c'était à lui, il chantait, puis il revenait, et c'était comme ça, et tout le monde devait se tenir.
Et il finissait son repas tranquille devant tout le monde.
Tranquille, c'est même tarif pour tout le monde.
Incroyable. Bon, alors pour le 2 mai, cette conférence, la suite du programme, qu'est-ce que vous organisez
ensuite? Alors ensuite, nous avons le 20 et le 27 juin, deux jours seulement, enfin deux soirées, on va dire, de fin de journée, à partir de 19h, une exposition sur la soprano suédoise Christine Nilsson. Et alors, elle a été, on l'a appelée le rossignol suédois, qui a eu la première avant, c'était Ginny Lindt, qui était un autre, sa prédécesseuse, qui a créé des opéras du bel canto. Mmh. Et elle a eu la particularité d'être une grande diva de l'époque. Elle a notamment chanté à la première soirée du Metropolitan of New York en 1883. Avant, il n'y avait pas d'opéra aux États-Unis. C'était le premier qui a été fait sous souscription. Il était à Broadway, qui est maintenant différent. Il est à Lincoln Center, à une autre place. On l'appelait le Old Mate, le vieux maître, donc à Broadway, près des musicales, jusqu'en 1966 de mémoire, et deux, trois ans après, ils l'ont construit où il est maintenant, au Lincoln Center. Il était très grand, 3800, 3900 places, pas 4000 places, donc il fallait avoir de la voix. Parce que je vous rappelle que l'opéra en chante sans micro, pour ceux qui l'ignorent encore. Donc c'est une chose. Et donc cette soprano suédoise, c'était une grande diva, a chanté la première soirée qui était l'opéra français Faust de Charles Gounod, le compositeur. Elle chantait donc le rôle de Marguerite, qu'on trouve dans d'autres mythologies.
Ouais.
Et c'était une grande diva. Et j'ai pas mal de pièces à proposer autour d'elle. Donc le but, c'est de faire cette petite expo grâce à notre partenaire Swiss One Plus, qui nous accueille. Monsieur Paul Noël, l'ingénieur qui nous prêtait ses locaux, et on fait une petite expo. Alors, comme ça sera assez petit, on va quand même faire des tickets limités. On va inviter certaines personnes de la communauté suédoise, justement, et le but, c'est montrer à la communauté suédoise qu'ils ont des chanteurs de Paris, il y en a plusieurs.
Il y aura aussi un petit peu de nourriture suédoise, des célèbres petites
boulettes. Je crois qu'il y aura du vin, pour tout dire. Je ne veux pas tout dire, mais pour ceux qui viennent, il y aura du bon vin.
Ils font du vin.
Il
ne
sera pas suédois, mais qui ne sera pas suédois.
Il sera italien.
Il sera plutôt de, allez, on va dire de Bourgogne.
C'est bien.
C'est de la Suède du Sud, Sud-Est.
Ah là, vous pouvez m'appeler, j'aime beaucoup les Bourgognes.
Ce sera du bon Bourgogne.
Avec modération. Il paraît qu'il faut chaque fois le dire.
Bah oui, dites-le alors.
Je l'ai dit. Si quelqu'un veut se dit tiens, finalement l'opéra, pourquoi j'écouterais pas un petit peu, vous commenceriez par lui proposer quel titre ou quelle
alors œuvre? C'est difficile, mais il faut prendre les choses les plus abordables. Titre opéra, on va dire, les opéras.
Ouais.
Mais alors il faut faire des choses un peu faciles, dans le sens musical, bien sûr, et ouais. dans le sens de l'histoire, bien sûr aussi. Parce que si vous prenez Wagner pour commencer, on ne va pas y arriver.
Ouais, c'est un peu guerrier quand même.
Non, c'est même pas ça, c'est que c'est des légendes mythiques.
On oui, trouve maintenant de Game of Thrones. Ouais, voilà,
c'est Game of Thrones maintenant, mais version en plus avec musical avec 120 musiciens et des cymbales et des trombones. Donc pour commencer, c'est un peu compliqué. Hein. Qui a tué quoi, pourquoi, mais le père était avec la cousine qui était avec le gros-père.
C'est important de comprendre l'histoire.
Oui. Si vous voulez vous libérer justement et écouter la musique pleinement, c'est bien de comprendre l'histoire avant. Moi, j'invite quand quelqu'un va à l'opéra, justement, c'est de connaître l'opéra avant en prenant le livret. Ce qu'on appelle le livret, c'est l'histoire, si vous voulez, le synopsis. Comprendre qui fait quoi, pourquoi, comment. Et les airs les plus importants qui sont liés à quel moment de l'opéra, de l'action. Ouais. Une fois que vous êtes libéré ça, parce que si vous écoutez l'opéra, vous dites « Ah oui, mais c'est quoi qui dit ?»
Vous êtes perdu.
Vous n'écoutez plus la musique. Ouais. Bah, vous perdez un peu le fil, c'est dommage.
Ouais. Et donc, enfin, vous recommanderiez quel
Rigoletto de Verdi, Traviata de Verdi. C'est des choses assez faciles et qui sont musicalement assez très abordables.
En compagnie de Patrick Motizi, président d'Helvetia Lyrica Association, vous avez un président du comité d'honneur assez exceptionnel avec lequel vous allez organiser une masterclass. Vous pouvez m'en dire plus?
Oui, tout à fait. Il s'agit du ténor américain Chris Merritt, qui est aussi un ami personnel, et qui a chanté ici au Grand Théâtre de Genève en 92 de mémoire Guillaume Tell, notre héros, enfin plutôt l'ami du héros, c'est Arnold. Ouais. Il va sauver Guillaume qui est emprisonné par Gessler, et il y a ce grand air Asile héréditaire et cette cabalette fantastique avec des contrutes, et c'était écrit pour un ténor à l'époque. C'est la première fois qu'on faisait des contrutes dites de poitrine, fort comme maintenant, alors qu'à l'époque c'était de voix de tête. J'ai pas le temps de tout vous expliquer. Et il s'appelait Gilbert Dupré, le ténor à l'époque, en 1825 de mémoire, qui est venu comme ça, qui a pris cette méthode en Italie. Et maintenant, tous les chanteurs sont comme ça. Et Chris Merritt a été un des plus grands représentants de cet opéra à travers le monde. Et il est notre président d'honneur. Et on est en train de voir avec lui pour organiser une masterclass pour les jeunes chanteurs lyriques, justement. Prévu que je prenne contact avec l'HEM ici et d'autres ailleurs. Et faire venir aussi peut-être des élèves aussi de l'étranger, ce qui permettrait de mettre la Suisse au milieu de tout ça, faire venir aussi des élèves étrangers, faire l'inscription. Oui, ouais. Tout à fait, c'est prévu. C'est les cas des masterclass ailleurs, hein, partout dans le monde. Les élèves s'inscrivent et suivent une leçon par jour pendant 4 jours. Et le 5e jour, il y a un concert final avec l'ensemble des élèves et le professeur.
Mais ça doit être une sacrée organisation de mettre ça en place.
Oui, j'ai l'habitude. Hein. C'est pas l'organisation qui pose problème, c'est trouver plutôt les infrastructures qu'on les donne et qu'on les donne disponibles.
Ouais.
C'est le challenge. Une fois j'ai les infrastructures, j'ai les réseaux, j'ai aussi un futur, j'espère qu'on va le rouler, j'espère qu'il va accepter le poste de conseiller artistique à Paris, qui est un coach musical pour des professionnels, qui va m'aider dans cette tâche aussi, qui est en lui encore plus présent qu'avec moi, avec les artistes contemporains de l'opéra, qui connaît les grandes stars du moment, qui les touche, etc. Donc voilà, c'est des choses, tout ça en préparation.
Et vous avez d'autres événements en prévision là, pour 2024? Alors, parce que ça fait déjà un joli petit programme.
Oui, tout à fait, on travaille dur. Donc j'ai dit l'histoire des castrats le 2 mai, avec Patrick Barbier, ce conférencier très connu, une grande sommité. Il a été l'élève aussi de Dominique Fernandez, qui est académicien actuellement à Paris. Donc, spécialiste de la civilisation italienne. Et il fait donc Farinelli, le fameux castrat, avec nous le 21 novembre. Donc, c'est deux dates que nous avons aujourd'hui à l'écrit.
21 novembre, on a un petit peu de marge. Ouais. Si on veut vous suivre, alors on peut vous suivre sur le site internet.
Sur le website, tout à fait. Sur le website, on va mettre tout ça, je pense, une dizaine de jours sur le website, et on va générer un code QR qui permettra aux personnes, aussi bien sur le website ou s'ils ont les flyers et les affiches en main, de pouvoir s'inscrire en ligne. Ça, c'est le côté un peu technique qu'on veut développer pour montrer qu'on est aussi accessible pour les high-tech.
D'ailleurs, je suis sur votre site, je vois l'équipe, vous êtes quatre là.
Oui, tout à fait, pour l'instant. Ouais. Ouais. On prévoit encore une ou deux recrues.
Donc, vous avez trois axes chez Helvetia
Lyrica.
Rappelez-nous les trois axes.
Alors, le patrimoine, on en a beaucoup parlé. Il y a aussi le culturel, donc c'est les conférences dont je viens de vous parler, et l'exposition. C'est parce que c'est là qu'on donne accès à des personnes qui veulent bien d'expliquer, donc être le plus pédagogue. Et c'est l'avantage de Patrick Barbier, c'est qu'il est facile d'accès. C'est pas un érudit avec un langage fermé, hermétique. Il est comme moi, volubile et latin. Donc ça, c'est très très bon, c'est très important.
C'est très vivant en tout cas.
Mais c'est ce qu'il faut.
Ben oui,
il
absolument.
Faut comme ça qu'on peut accrocher à l'intérêt. Il faut pas croire que c'est un truc de vieux entre eux qui se parlent, qui se congratulent au dîner et puis voilà. Donc il y a ça. Et puis il y a l'aspect pédagogique. Donc c'est la masterclass dont je vous ai parlé, entre autres. Et je vois aussi avec une association ici à Genève qui s'occupe des opéras, de toucher, de sensibiliser les jeunes enfants, 6-7 ans, 5 ans, l'école enfantine et autres, à l'opéra et la musique, tu vois, avec des petits morceaux connus, la flûte enchantée de Mozart, des choses comme ça.
Ouais.
Donc vraiment, c'est très très ambitieux.
Est-ce que, si je vous dis « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir »
Fausse de Godot, Marguerite.
Donc, est-ce que la Castafiore a vraiment existé?
Non, bien sûr que non, mais il y en a quand même. C'est pas la Castafiore, il y a des Castafiores dans l'opéra.
Alors,
si je suis méchant.
Alors, justement, Hergé, là, Tintin, puisque c'est de ça que je parle, hein, je parle de Tintin, le personnage de la Castafiore, elle n'existe pas, mais ce nom vient d'où?
Alors ça, je sais pas vraiment. Ça,
parce que là, vous avez dit des Castafiores.
Des Castafiores, ça veut dire dans le sens des personnages comme elle qui chantent faux.
Ah d'accord.
Même dans
l'opéra. Voilà. Par contre, le « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir ».
C'est un air, justement, c'est dans le Faust, dont je vous ai parlé de Christine Nilsson.
Ah ouais, on a appris un truc.
Voilà, c'est dans l'opéra Faust de Charles Gounod, ouais. Le compositeur. C'est l'air de Marguerite. Bah justement, Christine Nilsson, vous dites, qui a ouvert la première soirée du Metropolitan of New York en 1883 avec cet opéra et donc avec cet air aussi.
Je ne relirai plus Tintin de la même manière.
Bah, très mieux.
Monsieur Motizi, Patrick,
oui.
Encore quelques mots sur votre association avant qu'on se quitte.
Bien sûr. Écoutez, nous recherchons bien sûr des donations. Notre but, c'est quand même de devenir, nous espérons devenir une fondation pour pérenniser notre action et surtout mettre en avant un SwissMed. Comme vous l'avez compris, Helvetia Lyrica, d'abord c'est une marque déposée,
ouais.
Ça, c'est très important, elle est protégée. C'est bien pour mettre l'entité suisse et mettre la Suisse dans un espace où on ne l'attend pas. Mmh. On n'attend pas l'Amérique, on attend l'Italie, la France, mais pas la Suisse. Ensuite, la Suisse est aussi un des leaders dans la préservation du patrimoine grâce à une initiative fédérale, 2014 de mémoire. Donc chaque canton, il y a eu le cas encore il y a la semaine dernière, je pense, ou il y a 10 jours à Genève, a une politique de protection en cas de conflit, de catastrophe naturelle pour préserver des biens. Alors, c'est pas notre cas, bien sûr, dans les musées, dans les fondations qui sont ciblées, il y a un inventaire biannuel. Tous les 6 semestres, il y a un inventaire en cas de pouvoir intervenir et les sauver. Donc, il y a un savoir-faire suisse. Nous sommes avec nos partenaires Infomaniac aussi. Tous les data sont gardés en Suisse et sont de droit suisse. Ils ne se promènent pas ailleurs en Union européenne ou ailleurs aux États-Unis. Donc, c'est un droit suisse. Une gouvernance suisse, nous sommes tous suisses. Donc, avec un Swiss label, et pour nous, cet ADN suisse est très important.
Patrick Motizi, merci, c'était passionnant. Vous avez un enthousiasme carrément communicatif.
Ben j'espère. En tout cas, soyez tous libres de prendre contact avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors que vous avez compris, on est bénévole à 4, donc on mettra peut-être un peu de temps à vous répondre. Ça peut mettre 48 heures, mais pas plus, normalement.
Merci Patrick, très bonne journée.
Je vous en prie, merci à vous.